so faster. If you don't wanna hop on the train, it rolls past. Even though it's full of these braids with no class. No girls, no chains and no cars, but big talk, and they're straining so hard. You can see them on the blogs exchanging those bars. So now it's like a million acts, but there ain't no fans. Not man with a mind space and no plans. Time waits for no man. You run it today, but tomorrow they just might change the program. Oh man, now that's remote control, when someone else decides where you're supposed to go. And the train don't stop, it just rolls and rolls. City to city, coast to coast, you know how it goes. And it just don't stop, cause the time rolls. To the next stop, and it just won't stop, because life goes on and on and on to the next stop. That's how it goes when you hop on the line. You'll find anything you like, but you can't buy time. And there ain't no pause, no press or wine, so you don't wanna get left behind. Yo, I heard the record shop shut down. I guess we got one less spot for heads to link up now. So now they up link, it's all switched round. They mean your mouse when they talk about your click now. You gotta get hits in to put hits out. And the first place they'll hear how your shit sound is the set top box or the desktop. Next stop, the club, but no one gets off. And guess what? It's a logical progression. The ride don't stop, but it's got a new direction. And even all the old school hard-nosed cats, they got Serato scratch. Now they can't go back, hip-hop's dead. That's what they said on the news. Nah, it's still alive, but it's getting confused. So there's no time to waste, not a second to lose. Cause the clocks don't stop when you set them to snooze. And it just don't stop, cause the time rolls on and on and on to the next spot. And it just won't stop, cause life goes on and on and on to the next stop. That's how it rolls when you hop on the line. You'll find anything you like, but you can't buy time. And there ain't no pause, no press or wine, so you don't wanna get left behind.
En barricade au milieu du boulevard Saint-Michel. À quelques mètres de là, la place de la Sorbonne ressemble à un champ de bataille. Poubelles éventrées, bris de verre jonchant le sol, une odeur de gaz lacrymogène flotte encore dans l'air, conséquence des échauffourées de la nuit.
Moi, ça me donne du courage. On a réussi à occuper la Sorbonne. Qui n'avait pas été occupé depuis 68. Forcément, on va continuer. Si c'est pas sur la Sorbonne, je vous dis, ça sera sur une autre fac. Soit ça pose aucun problème.
Retour en onde sur les ondes de CFLX 95.5 à l'émission La Rage du Peuple. Puis on va bientôt commencer la chronique qui va porter sur les jeunes communistes des années 30 au Canada. Puis pour réaliser la chronique, c'est François Morin qui est avec nous, qui était là la semaine dernière également, puis qui avait réalisé une chronique sur les nihilistes russes du 19e et 20e siècle. D'ailleurs, à ce sujet, on peut retrouver en ligne sur le blog du collectif du 19 juillet à l'adresse Sherbrooke, ucl-sherbrooke.blogspot.com, l'entrevue qui est mise en ligne. Donc, salut Franck.
Salut, ça va?
Oui.
Je suis content, je suis rendu avec une musique d'intro, ça me donne l'impression d'avoir une soundtrack à ma vie. Là.
Effectivement, puis ça met les auditeurs en suspense. Donc, on va pouvoir commencer cette chronique qui va porter sur les jeunes communistes des années 30. Je crois que tu avais largement pu pénétrer le sujet. Pourquoi?
Parce que j'ai vaguement tenté de faire un mémoire de maîtrise là-dessus il y a de ça quelques années. Puis, dans le fond, de travailler sur les nihilistes puis les terroristes socio-révolutionnaires russes du 19e et du début du 20e siècle, ça m'a permis un petit peu de me retremper dans le bain vaguement. Donc, c'est ça m'a donné envie de parler de ça. Là.
Parfait. Fait que nous, ça nous fait plaisir à la Rage du Peuple de te recevoir, surtout que tes propos sont très éclairants pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ces fragments de l'histoire. Donc, aujourd'hui, les jeunesses communistes des années 1930, et on s'en est parlé un peu tout à l'heure, mais semblerait-il que c'est un sujet qui est très intéressant quand même.
Ben moi, je trouve quand même que c'est un sujet qui peut être intéressant. Là. Entre autres choses, dans le fond, je voulais plus me concentrer aujourd'hui sur la période qui a été appelée la période du Front populaire, donc la période 35 à 39, que, dans le fond, vous, pour votre émission, Je suis sûr que vous avez déjà dû en entendre parler ou vous avez déjà dû aborder la période, probablement plus pour la France et l'Espagne.
Oui.
Là, on va en parler pour le Canada à travers la perspective de la jeunesse communiste. Là.
Mais pour nos auditeurs, auditrices, les fronts populaires, différents fronts populaires étaient des coalitions de partis et d'organismes de gauche pour faire contrepoids à la droite. Je pense en France, c'était le gouvernement de Léon Blum qui aurait regroupé plusieurs partis, certains prolétariens. Et en Espagne, c'est eux qui ont gagné les élections après une dictature de droite et qui a mené à une autre dictature, celle-ci de Francisco Franco, et qui a aussi donné lieu à la Révolution espagnole en 1936. Mais là, c'est
oui,
le gouvernement...
interminable dictature de Francisco Franco.
Mais là, dans ce cas-ci, c'est le Front populaire du Canada. Qu'en est-il?
Oui, ben bon, en réalité, dans le fond, le Front populaire canadien a existé à la limite peut-être plus en étant largement minoritaire, je devrais dire plutôt. Le Front populaire, pour clarifier, c'est une idée qui vient du mouvement de l'Internationale communiste. À partir de 1934, le communisme sort de la période 1928 à 1933 et même 1934. On va inclure une partie de 1934. C'est comme l'année dans le fond où il y a un pivot là. Donc de 28 à 34, c'est la période où l'Internationale communiste est à son plus sectaire là. Carrément, on va voir dans le fond avec la crise économique. On voit la fin du système capitaliste. Là, c'est certain, ça va s'écrouler suivant comme la bonne orthodoxie léniniste. Et dans le fond, ce qui arrive pendant cette période-là, c'est que là, on est comme excessivement sectaire. On va commencer à accuser n'importe qui n'est pas communiste d'être essentiellement des fascistes. Là, on va parler de social-fascisme. Entre autres, on va accuser les sociaux-démocrates d'être carrément des fascistes. Ce qui arrive en 1934, c'est qu'il y a la montée cette fois du réel fascisme. C'est Mussolini est déjà là en Italie depuis les années 20. Hitler est là à partir de 1933-34 justement en Allemagne. Et puis en France, il y a des émeutes de droite dure. Là. Donc là, l'Internationale communiste va prendre peur. Il commence à s'inquiéter, dans le fond, de la montée du fascisme. Et puis là, l'ennemi, carrément, n'est plus la social-démocratie, mais carrément le fascisme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer complètement de perspective. Là. Il y a vraiment un volte-face où, là, on va arrêter d'accuser les sociaux-démocrates et on va vraiment leur tendre la main. Et puis là, on parle non seulement de sociaux-démocrates, mais à travers la période de 35 à 39, donc jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique, donc la signature d'une entente entre Hitler et Staline pour la non-agression entre l'Allemagne et l'URSS. Mais pendant la période là, 35-39 du Front populaire, il y a vraiment cette idée-là d'avoir un regroupement des organisations, des partis politiques, des syndicats, n'importe qui est d'extrême gauche, de gauche, de centre-gauche. Et on va même aller quand même pour du centre-droite, là, beaucoup. Au Canada, par exemple, on va finir par faire une main tendue au Parti conservateur, là, ce qui est quand même intéressant. Là.
Ouais. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Je pense que récemment, en Grèce, le Parti communiste grec va s'accorder sur beaucoup de points avec le Parti d'extrême droite grec contre les émeutiers qui, dans le fond... signait à quelque part l'arrêt de mort du Parti communiste grec.
Ça, c'est étrange. En fait, en 1936 aussi, il y avait d'anciens fascistes qui venaient prendre beaucoup de postes et d'influence dans le Parti communiste espagnol.
Mm-hmm. Exactement. Donc là, ce qui est intéressant dans le fond par rapport à la période du Front populaire, c'est que justement avec cette main tendue-là, là, le discours communiste change complètement, les tactiques vont changer aussi. Là. Entre autres, ce qu'on voit à travers la période, c'est à mesure qu'on approche, en 36, ça devient plus marquant, en 37, ça devient vraiment immanquable. 38, là, c'est juste flagrant. La mise en veilleuse du discours révolutionnaire, tranquillement, on va carrément arrêter de prononcer autant que possible le mot « révolution ». On va aussi critiquer les ouvriers pour les actions offensives. Donc, on va permettre aux ouvriers, dans le fond, de défendre leurs droits, mais on va carrément les accuser d'être, d'une certaine façon, inconscient du moment historique.
De foutre la merde.
Oui, tout à fait. Là. Si on prend l'exemple du Parti communiste français et de Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français pendant ces années-là, qui va dire pendant une grosse période là, de grève avec occupation là, en France, pendant le Front populaire, justement, Maurice Thorez va essentiellement dire aux ouvriers de finalement... quitter l'usine pour rentrer chez eux, pour après ça retourner travailler le lendemain, parce que là, il était temps de finir la grève. Là. C'est en gros ce qu'il va leur dire.
Mais ça, c'était une demande du Comintern.
Oui, tout à fait. Là. Vraiment, okay. L'idée, c'est que ce qu'on veut à cette époque-là dans l'international communiste, c'est ne pas inquiéter les bourgeois et ne pas inquiéter la petite bourgeoisie. Donc, on va arrêter de critiquer le système capitaliste pour limiter la critique, dans le fond, juste au fascisme et au gros capitalisme. On va, en fait, critiquer les trusts, mais on critiquera jamais la propriété privée. On critiquera pas non plus, dans le fond, les petites entreprises, là, définitivement okay. pas.
T'as-tu dit les trusts ou les trusts?
Les trusts, on va quand même toujours continuer à les critiquer. S'il y a des gens qu'on va continuer à critiquer à travers toute cette période-là, les trusts, c'est vraiment une des cibles par excellence. Les anarches aussi, d'ailleurs, là, quand même... On parle en Espagne d'une période où les brigades internationales et les alliés du PCE, dans le fond du Parti communiste espagnol, mm-hmm. vont se faire une joie d'essayer de décollectiviser les terres les usines qui ont été collectivisées par les anarchistes espagnols.
Oui, fait qu'on se demande c'est qui est contre-révolutionnaire dans tout ça.
Non, clairement, à cette époque-là, le Parti communiste devient contre-révolutionnaire plus que d'ailleurs certains partis sociaux-démocrates. dans certains cas, on va parler d'un... Les socialistes vont parler d'un socialisme de combat. Là. On pense par exemple à Marceau-Pivert en France. Ce qui est intéressant par rapport à la jeunesse à cette époque-là, c'est qu'il y a aussi comme tout un discours, c'est l'apparition, peut-être pas nécessairement l'apparition, mais à cette époque-là, il y a vraiment comme la présence d'un discours de la génération. Là, on va parler, les jeunes qui ont grandi pendant la crise se qualifient eux-mêmes de génération sacrifiée. Là. Okay. Essentiellement, ils n'ont pas l'option d'aller se trouver du travail. Pour eux, entre autres, dans le fond, leur vie est terminée. Là. Ils ne peuvent pas se trouver d'emploi parce qu'il n'y en a pas de disponible. Ils ne peuvent pas non plus essayer de fonder une famille. Ils ne peuvent pas essayer d'aller rencontrer des gens parce qu'ils n'ont pas d'argent pour sortir, ils n'ont pas d'argent pour rien faire. Ils ne peuvent pas se garantir un futur. Donc, ils sont comme un peu emprisonnés du moment historique. Là. C'est super intéressant parce que ce discours de la génération-là, combiné au discours du Front populaire, vont amener une situation très particulière dans la jeunesse communiste à travers le monde, mais aussi dans la jeunesse communiste au Canada, où là, dans le fond, on va profiter du moment du discours du Front populaire où on se fait dire, justement, allez voir les autres, là, arrêtez, justement, d'être seul, enfermé dans votre petite bulle, justement, communiste, révolutionnaire. Puis là, c'est plus le temps de tout ça. Là, c'est le temps d'aller voir les gens, puis tout ça. Donc là, on va en profiter pour se faire des alliés dans, justement, des organisations de jeunesse qui sont non seulement non-révolutionnaires, qui sont gauchistes, centre-gauchistes, mais aussi centristes et de centre-droite. Et même, justement, en certaines occasions, là, on va créer des liens avec, par exemple, au Québec, avec la jeunesse catholique, parfois. Ça suppose quand même un certain niveau de compromis, là, même un haut niveau de compromis, si on pense à l'orthodoxie communiste traditionnelle. Mais dans la période, ça a quand même du sens. Là. C'est intéressant aussi parce que cette façon, ce lieu-là de socialisation qui se crée, dans le fond, à travers le mouvement communiste, mais aussi à travers le mouvement du Front populaire, va donner l'occasion, là, enfin, à ces jeunes-là de rencontrer d'autres jeunes. Là. Donc, il se crée autant qu'il y a une conscience. Oui, c'est ça. Il y a un choc des idées, mais il y a aussi, dans le fond, l'idée du Front populaire, puis à la fois l'idée de la génération sacrifiée, va vraiment comme donner une opportunité à ces jeunes-là, en tant qu'individus, en tant que personnes, de là, avoir une vie. Là finalement, ils peuvent s'impliquer dans le mouvement. Ils ont quelque chose à faire de leur journée qui ne leur demande pas nécessairement d'argent. Et puis, c'est leur occasion aussi d'aller rencontrer des gens pour de vrai. C'est quand même important de mentionner, si on regarde, pour ceux qui pensent juste que, qui voudraient penser à l'époque que le militantisme n'est qu'une tactique militante, point, ils ont juste à aller regarder... les feuilles, les brochures, par exemple, du parti, ben, en fait, justement, de la Ligue des jeunes communistes du Canada en 1938 pour leur congrès annuel, où on va justement mentionner le fait que certains membres sont célibataires, on va afficher leurs photos, on va dire à quel point ils sont célibataires, sont d'excellents danseurs, comment certaines filles sont d'agréables compagnie. Là. Donc, il y a quand même vraiment l'idée de pouvoir aller rencontrer des gens et de se créer une vie. ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ce discours-là, cette importance-là de la jeunesse, parce qu'on va vraiment mettre de l'avant la jeunesse à cette période-là, et puis, dans un contresens, les fascistes vont faire la même chose. Là. Quand même, Hitler... fonde beaucoup son discours aussi sur la génération de la crise. Là. Il y a une importance par rapport à ça. Là. Donc, d'un côté comme de l'autre, donc fasciste et antifasciste, pour vouloir vraiment réduire ça à une simple dichotomie, fascistes et antifascistes vont avoir vraiment comme mis de l'avant la jeunesse comme les acteurs importants du moment. Là. Et puis, je pense que quelque chose qui est important de noter, justement, c'est que de mettre autant de l'avant l'importance sur la jeunesse, sur l'organisation de jeunesse dans le Parti communiste, on va constamment leur dire d'aller de l'avant, d'aller voir. Puis là, ceux qui l'ont peut-être entendu, je viens de taper sur la table en essayant de mettre de l'emphase dans mon discours juste par intérêt et passion. Là. En réalité, je ne devrais pas faire ça, puis je devrais plutôt rester sobre. c'est ça, on va vraiment leur dire comme allez de l'avant, allez voir les autres groupes, impliquez-vous, participez à des grèves, faites attention, restez dans des grèves défensives, brassez pas trop la cage non plus. Il faut qu'on mette de l'avant l'idée d'une réelle démocratie parlementaire, donc on met en veilleuse totalement, comme j'ai dit tantôt, le discours révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, à force qu'on parle d'eux et qu'on vante leur travail parce qu'ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup s'impliquer. Et c'est aussi eux qu'on envoie à l'école à Moscou. Là. On va les envoyer à partir de 1925 à l'école Lénine. Donc, d'une certaine façon, ceux qui reviennent et qui suivent le mieux l'orthodoxie, ceux qui respectent le plus les idées de l'international, ce sont les jeunes qui sont directement éduqués par, justement, l'international à l'école Lénine. Quand ils reviennent, c'est eux qui, d'une certaine façon, sont donc le mieux placés pour qu'on écoute leurs idées, parce que c'est eux qui supposément sont le plus aptes à respecter l'orthodoxie du discours du moment. C'est aussi eux qui, d'une certaine façon, connaissent le mieux les idées récentes, et c'est eux qui ont été le mieux éduqués par le mouvement communiste. Donc, ces militants-là qui deviennent, d'une certaine façon, les militants d'élite, là, autant l'intelligentsia que ceux qui vont travailler, dans le fond, là, faire la job de bras du parti, sans vouloir dire que, en fait, sans parler de violence, là, mais vraiment plus faire la job de bras, dans le fond, de travailler dans la documentation, tout ça, participer aux réunions, essayer comme d'aller voir la population, tout ça. C'est les jeunes. Et puis... là, ce qui arrive, dans le fond, quand on crée cette espèce de forme de militant d'élite-là, et puis, il ne faut pas se leurrer non plus, là, on essaye quand même de les embrigader à un certain degré. Là. On veut être sûr qu'ils fassent bien leur job, mais à force de tellement vouloir bien les embrigader, ces jeunes-là finissent par se regarder comme étant les meilleurs, justement. Et c'est de, dans le fond, là, ils commencent à se dire que c'est de eux qu'émanent les vraies idées là, du parti. Et puis, c'est là que, dans le fond, à travers les congrès de jeunesse canadienne, qui sont une idée importante... OK, fait que là, on vient de me dire qu'il me reste 2 minutes, fait que je vais essayer de faire ce cours. On va revenir sur les congrès.
2 minutes avant la pause.
Oui, c'est ça. Donc, on va essayer de... C'est ça. Pour ce qui est des... On va envoyer les jeunes s'impliquer dans la création d'un congrès pan-canadien de la jeunesse qui s'appelle les congrès de jeunesse canadienne, où là, les jeunes militants de la Ligue des jeunes communistes vont vraiment essayer de faire le pont et d'avoir un discours pour la protection des intérêts de la jeunesse dans la crise. Là. Entre autres, c'est un discours qui est particulièrement antimilitariste, qui est très social-démocrate, qui vise, dans le fond, pour une meilleure éducation, pour la dans le fond, l'aide aux chômeurs, tout ça, qui vise aussi quand même à un certain degré à leur faciliter la possibilité d'avoir, de fonder une famille, là. Donc, c'est tous des trucs qui sont non seulement intéressants pour les jeunes communistes, mais qui sont intéressants pour l'ensemble de la jeunesse au Canada, là.
Donc, on va faire un retour après la pause sur les ondes de CFLX 95.5. On est avec François Morin qui nous parle des jeunesses communistes des années 1930 au Canada.
Courage de mes opinions, j'aurais été un peu moins sage en écrivant mes chansons. J'aurais parlé du sida, celui qui a tué mes copains, de la misère et de l'État qui nous mange le pain sur le dos. Si j'avais été moins sage en écrivant mes chansons, j'aurais parlé du chômage et des gens sans oignons, du FN qui fait rage, des gens qui votent que pour des cons, des gars morts bien avant l'âge, assassinés sans raison par des bourreaux. Mais je ne suis qu'un chanteur de variété, de soupe, de variété, chapelet, ça comme vous voudrez. Je mets les mots là après l'auto-hasard pour faire les couplets. Je m'occupe à des partoches et je fais les refrains en anglais comme un con. Si j'avais eu l'audace d'avouer mes sentiments en ce qui concerne la face toujours cachée de mes amants, de grandes soirées à secret, en petit repas déguisé, doux supplice, fort caprice, belle entrée, dessert au fouet dans la nuit. En ce qui concerne la face toujours cachée de mes amants, c'est du masculin, c'est du viril évidemment. Je n'ai jamais aimé les femmes autrement qu'en dentelle dans des journaux infâmes qui m'ont fait homosexuel, c'est la vie. Mais je ne suis qu'un flambeur de soirée mondaine. Les top modèles en fleurs poussent comme de la mauvaise graine. Je mets deux mots là après l'hôtesse sont toutes folles de moi. Je fais ma petite gueule d'apôtre et mes grandes allures de roi. Des abrutis. Si j'avais eu la force, simplement pour un je t'aime, en soulevant l'écorce de mon corps rempli de crème, j'aurais pensé tout haut ce que j'ai toujours chuchoté par un ami, vaut 100 000 euros, partageons le temps qu'on est là, c'est la rue. En soulevant l'écorce de mon corps rempli de crème, en faisant une entorse au règlement de Salem, je vous aime tendrement, vous riez, vous de nous, sans arnaque, ni boniment, tout partager avec vous, c'est pointu. Mais je ne suis qu'une grosse tortue, en porche décapitée, j'ai la carcasse en alu, et le cœur en assez chromé, j'ai le mépris d'un connu, la classe du porte-monnaie, des amis qui courent pas les rues, l'amitié qui porte un grand mais, c'est foutu. Si j'avais su retrouver mon enfance pour mourir sans être déçu, loin des cimetières de France, faire enfin ce long voyage, celui qui perce à mes nuits, prendre ce train volage qui me promettait sans sursis du tempo. Pour mourir sans être déçu, loin des cimetières de France, me retourner sans mon vécu, sans me soucier des distances, à la limite en Ardèche, mes cendres dispersées sur un arbre, une flèche qui transperce un cœur brûlé rigolo. Mais je suis cette grosse tortue dans cette grosse boîte en or que l'on transporte au salut sur des tambours trop forts. Y'a ma tête et mon cul qui négocient sans façon contre quelques pauvres qui leur place au Panthéon. Oh oui, cette grosse tortue dans cette grosse boîte en or avec sa carcasse en alu et son cœur de porc. Et sa tête et son cul négociant sans façon contre quelques pauvres qui le droit. Le droit d'être le roi des cons.
Seriez-vous fatigué du froid hivernal? Eh bien, n'ayez crainte, car le Croque-Nocho reste au rendez-vous pour une hausse de chaleur. Sous les rythmes de la musique d'ici ou d'ailleurs, au cœur de l'actualité, ne manquez pas le Croque-Nocho tous les mardis soirs de 6 à 7 avec votre animateur Guillaume Genet sur les ondes de CFNX 95,5.
CFLX présente en projection l'album Humeur et rumeur d'ici et d'ailleurs de Jean-Philippe Barrette. Jeune auteur, compositeur et interprète, son amour de la musique l'a amené à évoluer au sein de différentes formations, passant du country au folklore, du rock au pop, sans oublier le jazz également. On écoute un extrait.
Prends tout à nos pis t'ébarrasse, je suis plus capable de me geler la face, regardez ma vie me passer sous le nez. Mon époudré vient de m'annoncer qu'il est plus capable de m'endurer et mon sang coule sur le plancher.
Avec cet album, il nous amène dans des univers parfois sombres et imaginaires, parfois plus personnels, mais toujours teintés d'images touchantes. Humeur et rumeur d'ici et d'ailleurs de Jean-Philippe Barrette. Un disque de la relève à écouter absolument.
Malgré toutes mes bonnes intentions,
quand la dérape me frappe, je peux...
CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
On est de retour avec Franck pour la chronique qui porte sur les jeunesses communistes au Canada dans les années 30. Donc, on en était rendu où, carrément, ces jeunesses-là étaient très, très, très bien encadrées par l'International et par le Parti communiste canadien.
Oui, et puis, dans le fond, on était rendu à parler du travail de la jeunesse communiste dans l'organisation des congrès de la jeunesse canadienne. Dans le fond, l'idée à travers les congrès de jeunesse canadienne, c'était de vraiment là, de réunir le plus de jeunes Canadiens possible. Ça a été vraiment un gros travail d'organisation qui a été fait par la Ligue des jeunes communistes du Canada à cette époque-là. Ce qui est important de dire aussi, je pense, c'est que la façon que tout le Parti communiste fonctionnait essentiellement, c'est à travers des satellites. Donc, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de personnes qui étaient membres officiellement de l'organisation. Officieusement, par exemple, beaucoup de membres étaient... Beaucoup de personnes étaient membres justement des organisations satellites. Donc, il y avait une organisation qui s'occupait de la défense des droits des travailleurs. Il y avait des organisations syndicales. Il y avait des organisations, par exemple, qui s'occupait des jeux, une organisation de la jeunesse et même une organisation pour les enfants. Donc, c'est vraiment le travail. Officiellement, c'est ça, c'est un parti qui est très minoritaire et de la même façon, la Ligue des jeunes communistes n'est pas une organisation qui, à quelques moments que ce soit, là, depuis sa formation en 1923-1924 jusqu'à 1939, va avoir beaucoup de membres. Là. Je pense qu'au maximum, à travers le Canada, on parle peut-être de 3000 membres. Là. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués indirectement dans la Ligue des jeunes communistes à travers leur implication dans les organisations satellites. Et puis, ce que la Ligue des jeunes communistes va faire en travaillant justement pour créer les congrès de jeunesse canadienne, c'est d'impliquer le plus possible leurs satellites. Donc, ils ont un espèce de pouvoir, un espèce de contrôle indirectement là, non seulement dans l'organisation, mais dans les discussions. Parce que quand même, c'est les congrès de jeunesse canadienne regroupent des jeunes d'à travers tout le Canada.
Incluant le Québec.
Incluant le Québec, oui. Bon, dans les premiers cas, l'Alberta sera pas inclus.
Ils ont su outrepasser le nationalisme.
Et oui, ils ont réussi, même d'ailleurs, dès 1935, dans le fond, l'essentiel des organismes qui sont représentés, communistes ou non, là, dans les congrès de jeunesse canadienne, sont du Québec et de l'Ontario, donc quand même là, le centre du Canada. Mais c'est ça, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette idée-là de créer un mouvement pan-canadien de la jeunesse, où la jeunesse serait représentée, suppose quand même, comme on l'a dit tantôt, là, tout en suivant la logique du Front populaire, ça suppose qu'il y a beaucoup de négociations, beaucoup aussi de capacité à écouter. Puis, c'est quand même important de noter que probablement que la jeunesse communiste était efficace, non seulement parce qu'elle était très organisée, puis parce qu'elle avait beaucoup de support dans ce sens-là du Parti communiste, mais aussi parce que c'était probablement ceux, à cette époque-là, qui avaient le plus conscience des besoins de la jeunesse et puis le plus conscience aussi de la situation, là, pour respecter encore l'expression, du moment historique. Je veux dire, à partir des années 20 quand même, il y avait des militants dans la jeunesse communiste qui disaient que ça n'avait pas de sens de vouloir supporter un parti qui allait être parlementaire quand, dans le fond, les jeunes n'avaient pas le droit de vote, là. Il faut dire qu'à cette époque-là, le droit de vote était à 21 ans. À partir de 14 ans, on pouvait faire partie de la jeunesse communiste jusqu'à ce qu'on aille graduer, dans le fond. Donc, comme il disait qu'il n'était pas représenté, il y avait automatiquement une idée d'une participation dans le système qui se faisait de façon extra-parlementaire. Là, dans les années du Front populaire, on va mettre de l'avant plus une idée de participation parlementaire, mais en même temps, on garde un peu cette idée-là de l'extra-parlementaire, de la participation du système tout en étant en dehors du système, dans le fond, avec justement les congrès de jeunesse canadienne où là, les jeunes sont représentés entre eux, puis ça va être juste la force du mouvement qui va exister juste par son nombre. Là, on parle quand même d'un mouvement, les congrès de jeunesse canadienne, qui à un moment donné rejoignent à peu près quand même au-dessus de 250 000 jeunes là, à travers le Canada.
Ça, pour cette époque-là, c'est assez considérable. Mettons, si tu me donnes une comparaison avec une organisation, comme une autre organisation...
Tu veux que j'improvise ça comme ça, là?
Non, mais je veux dire, pour cette époque-là,
ouais,
relativement...
Oui, non, quand même, c'est ça, c'est important. Puis, il faut dire aussi que si on compare juste proportionnellement, mettons, avec les États-Unis, je pense que le Canada est plus... autant le Parti communiste que les congrès de jeunesse sont plus représentatifs de la mosaïque dans le fond canadienne que ça va l'être aux États-Unis, là. Si on le prend vraiment par proportion. Et puis, quand même, l'excellent travail qui est fait, là, justement, de négociation et puis d'organisation par la Ligue des jeunes communistes va être mis de l'avant, justement, par le parti comme étant une réussite, là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les jeunes dépassent tellement l'idée du Front populaire, ils vont finir par accepter un peu n'importe quoi, justement, selon le parti, pour être capable de permettre la survie de l'organisation, la survie vraiment de ce mécanisme de défense-là des jeunes qui ont en très large partie créé, là, je veux dire, quand les jeunesses patriotes vont, et à un moment donné, je pense aussi, toute la branche catholique québécoise menace de se retirer, genre, si les jeunes communistes n'acceptent pas certaines conditions comme le droit à la propriété, la liberté de religion, des trucs comme ça. Les jeunes communistes, eux, qui voient que, dans le fond, le retrait de la délégation, de l'essentiel de la délégation québécoise, amènerait carrément, dans le fond, le sabordage des congrès de jeunesse canadienne, vont accepter ces conditions-là et vont les accepter fièrement. Et c'est vraiment perçu au sein de l'organisation, au sein de la Ligue des jeunes communistes, comme étant une réussite. Par contre, immédiatement après ça, les membres du parti, eux qui sont présents, les membres du parti adulte, vont aller voir les responsables de la Ligue des jeunes communistes puis ils vont leur dire « qu'est-ce que vous venez de faire là? »
Puis ça, l'international en pensait quoi aussi?
L'international avait quand même... généralement, c'est ça, il faut dire, là, c'est la période où on déradicalise le discours beaucoup, mais en même temps, l'international n'était pas non plus prête à accepter n'importe quoi. Là. Il y avait quand même une ligne directrice assez sévère à suivre.
Surtout que tu me disais que le Parti communiste canadien était un des partis communistes qui suivait le plus à la lettre les directives du Comintern.
Ouais, de réputation, parmi les historiens, le Parti communiste canadien puis le Parti communiste des États-Unis sont deux des partis qui suivaient le plus les directives du Comintern. Il y a quand même des théories alternatives là-dessus. Puis je pense que justement, quelque chose qui est intéressant, c'est le travail de la Ligue des jeunes communistes à travers le Canada, mais en particulier, on va prendre le cas de la Colombie-Britannique et du Québec, où là, les actions vont être beaucoup plus radicales que ce qui est prôné à l'époque par le parti et par l'international communiste. Comme on disait tantôt, le parti et l'international vont prôner plutôt des actions défensives qui visent à défendre les droits des travailleurs, à protéger, dans le fond, si à l'époque, on peut parler d'acquis d'une certaine façon, puis je pense que clairement, à cette époque-là, on ne peut pas parler d'acquis, là. Mais il n'est pas question d'aller chercher quelque chose de plus. Par contre, les jeunes communistes, eux, vont finalement finir par se faire critiquer ouvertement par le parti sur le fait qu'ils vont participer à des actions qui sont un peu plus offensives. On parle, par exemple, quand même aussi à des gestes de propagande qui sont intéressants, là. Si on prend au Québec le fait que les jeunes communistes qui s'organisent en espèce de colonne volante, il faut dire qu'à l'époque, il y a la loi du cadenas aussi au Québec. Là,
peux-tu expliquer c'est quoi?
La loi du cadenas, essentiellement, vise à rend illégale toute activité révolutionnaire ou séditieuse, là, peu importe à quel point... D'un duplessisme... à son meilleur à l'époque. Là. Puis c'est vraiment quand même un cas où justement les jeunes vont peut-être être eux aussi d'une certaine façon à leur plus radical dans ce cas-là, parce que bon, ils savent qu'ils deviennent des illégaux. Ils vont changer le nom pour, au Québec, ils passent de Ligue des jeunes communistes à Fédération des jeunes travailleurs. Ils vont changer leurs locaux qui vont avoir été justement soumis à la loi du cadenas. Ils vont aussi changer leurs locaux parfois par rapport à la répression supposément qui vient de groupes de droite, là, par exemple les jeunesses patriotes là, au Québec. Ce qui est intéressant, ils vont aussi radicaliser leurs gestes, là, comme j'avais commencé à dire, s'organiser en colonne volante pour aller au théâtre juste avant le début des films, admettons, à 7 heures le soir. Ils vont aller distribuer des tracts pendant à peu près une dizaine de minutes, puis après ça, ils vont changer de lieu pour aller faire une manifestation devant les locaux du journal de Gazette, pour après ça, changer encore une fois et retourner distribuer des tracts à un autre endroit. Donc, ils font
à
ça.
À la fin du film.
Oui, entre à la fin du film. Ils vont aussi organiser des manifestations. Là, on prend, par exemple, la Colombie-Britannique, où il est supposé y avoir des discours organisés à l'occasion. Il y a un croiseur allemand qui, en 38, qui vient se porter, qui vient aborder dans le port de Vancouver. Et puis, les communistes vont y aller pour faire des discours, tout ça. Les jeunes communistes, eux, vont carrément émettre l'idée d'aller distribuer des tracts sur un croiseur nazi, des tracts antimilitaristes, là. Donc, il y a vraiment quand même une idée du radicalisme qui est plus présente. C'est ça, chez les jeunes communistes. Entre autres, à cause d'un contexte extérieur au mouvement communiste, qui est celui de la génération sacrifiée, dans le fond, qui est celui de la crise. Mais il y a aussi un contexte interne qui est la tactique du Front populaire et le fait que les jeunes, à cette époque-là, les jeunes communistes sont perçus comme l'élite du mouvement, là. Ils vont vraiment resserrer leur rang et puis se lancer dans un travail de propagande qui est beaucoup plus sérieux, qui est beaucoup plus affiné. Ils vont aussi participer à des activités entre jeunes, là. Puis c'est vraiment important, dans le fond, dans leur implication dans le milieu étudiant, tant au secondaire qu'à l'université, à la fois d'être militant et justement d'essayer d'impliquer, si on prend le cas des universités, d'impliquer justement les partis du corps étudiantin qui peuvent plus être intéressés justement par les questions sociales et politiques. Donc, d'essayer de les impliquer dans des discussions sur le marxisme, sur la situation internationale, sur le capitalisme et tout ça. Mais aussi, on va quand même être conscient qu'il est important aussi d'avoir une vie étudiante, donc de se faire des amis et puis de participer à des activités. On va noter, entre autres, à Winnipeg, à Montréal, à travers le Canada, la fondation de troupes de théâtre qui s'appelle le New Theatre, qui vise, dans le fond, à faire un peu un espèce de théâtre de gauche militant, mais qui est aussi quand même une porte d'entrée pour des jeunes qui s'impliquent dans le milieu théâtral et dans le milieu de la création. C'est une porte d'entrée pour eux dans ces milieux-là, là, pas juste au niveau militant, mais vraiment en tant que profession puis en tant qu'artiste. On va parler, entre autres, à Montréal, ça atteint quand même 140 personnes, là, le New Theatre, dont 30-35 sont directement membres de la Ligue des jeunes communistes, mais le reste sont soit des sympathisants ou du monde qui sont juste impliqués à travers le New Theatre. Donc, c'est vraiment ça un exemple de la réussite, là, de la tactique du Front populaire, mais en même temps aussi de l'implication auprès des jeunes puis du travail générationnel, là, de la Ligue des jeunes communistes. Je pense qu'on peut conclure là-dessus.
OK, ben c'est ce qui fait, on pourrait dire, largement le tour. Merci beaucoup, Franck, d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis pour une deuxième fois, d'ailleurs,
cette fois-là, un petit peu plus improvisé que la dernière fois, mais bon, c'est toujours le fun d'avoir plus d'adrénaline.
Oui. Puis je tiens à souligner aux auditeurs, auditrices, que cette chronique va être disponible en ligne sous peu sur le blog du collectif du 19 juillet, collectif dont nous sommes membres ici à la Rage du Peuple, qu'on retrouve à l'adresse ucl-sherbrooke.blogspot.com. Là-dessus, on met régulièrement des nouvelles ou encore de l'information, des appels à tous
et bien sûr certaines chroniques et parfois l'intégrale des émissions de La Rage du Peuple.
Donc, on va pouvoir retrouver l'entrevue avec nos deux invités d'aujourd'hui, Franck, qu'on vient juste d'entendre, et Julie Dionne.
Fait que c'est ce qui fait le tour de La Rage du Peuple pour aujourd'hui. Si vous voulez nous envoyer des commentaires, suggestions ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire à l'adresse suivante.
ucl.sherbrooke@causecommune.net
qui est notre nouvelle adresse.
Ta-da.
Donc, où vous pouvez toujours simplement visiter notre blog. Donc, merci beaucoup et bonne semaine à tous.
À la prochaine. You move.
Ne vous laissez pas intimider par les musiques expérimentales. Délirantes, dérangeantes, elles savent aussi divertir, questionner et stimuler. Chaque semaine, François Couture vous propose nouveautés, portraits et thématiques couvrant tout le vaste spectre des musiques d'avant-garde. Ne manquez pas Délire actuel, le mardi à 20h.
Voici la météo sur l'Environnement Canada en ce mardi 10 février. Pour ce soir et cette nuit, sera de la brune verglaçante intermittente, se changeant en brune intermittente en soirée. Il y aura des nappes de brouillard se formant durant la soirée. Les températures seront à la hausse pour atteindre 6 degrés au cours de la nuit. Et pour demain mercredi, sera de la brune intermittente se changeant en pluie en soirée. Il y aura des nappes de brouillard accompagnées d'un maximum à plus 9 degrés. La météo à CFLX vous est présentée à toutes les heures.
CFLX 95,5. La radio communautaire de l'Estrie.
Bonsoir et bienvenue à une toute nouvelle émission du Croc Nut Show avec votre animateur Guillaume Genet et sa superbe co-animatrice Rachel.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bien oui. Sûr, faut pas oublier la chante masculine.
Ça va bien Rachel, en ce 10 février?
Ben oui, on se dit ce février, bien sûr, ça va bien, et toi?
Ben oui, hein, on est le 41e jour de l'année du calendrier grégorien, Rachel. Comment ne pourrais-je point aller?
Comment est-ce qu'on ne pourrait pas bien aller? Ben, peut-être que s'il avait été plus beau aujourd'hui, il y a eu quelques percées de soleil, alors on a pris un peu de vitamine D.
Mais Rachel, aujourd'hui, oui. On était bien.